pour avoir l'air beau, dit Rashi.
Donc il fallait, je ne sais pas, s'il fallait avoir les yeux plus en amande, ou s'il fallait qu'ils soient plus rouges, ou je ne sais pas ce qu'était le... Le Mashmashéli était sans arrêt en train de se coucher les yeux. A priori, en général, ça a comme conséquence qu'on a les yeux rouges, ou je ne sais pas quoi, et je ne vois pas, peut-être se considérer comme beau, je ne sais pas. Ça, c'est ce que dit Rashi. Et alors, bien sûr, il y a d'autres lectures. Le Hamek Davar, il dit que le sens du mot Nahar, ici, ça veut dire Mesharet, c'est-à-dire c'est un serviteur. Il était au service. Kama Pamim, il dit, voilà. Lui, Yosef, il était Meshamesh, il servait ses grands frères. Comme il était le petit frère, alors il faisait, et ses frères l'avaient engagé, c'est lui qui faisait le café, il amenait, eux ils faisaient les travaux un peu intéressants, les responsables, lui il était aussi à leur service en fait. Vehem ayu meshamshim oto. Zehu lashon nahar et benei. D'accord? Et, plus bas, l'expression était nahar avec. Mais ici, il servait avec eux, en fait. La kavana, c'est chacun servait les autres. On met l'accent là-dessus, qu'ils étaient à leur service, mais eux étaient aussi un peu à son service. Dounar et Bene Bila, et ils servaient les fils, de Bila et de Zilpa, Neshe Aviv, ils servaient les fils des servantes. Et ici, le texte fait attention de ne pas les présenter comme étant les servantes, mais comme des nashim, neshe aviv, les femmes de son père. Alors qu'elles étaient les servantes de femmes de son père, et elles ont eu donc des enfants avec Yaakov, mais là, l'accent, il est mis sur le fait que lui, il est considéré en tout cas comme des femmes de Yaakov. Plein sens du terme, et pas des esclaves, des servantes. Et Rashi dit, Ragil et Selvne Bila, les fils Chayou, Echav et Vazinotam, Vou Mekarvan. Pourquoi est-ce qu'on veut dire ici? Rashi veut dire qu'il était proche des fils des servantes, parce que les frères, effectivement, ils méprisaient leurs demi-frères, les fils de Léa, méprisaient les fils de Bila et de Zilpa. Ils les traitaient quasiment d'esclaves, puisque leur mère était les servantes de Léa. Et lui, au contraire, il essayait de les rapprocher. Lui, il les traitait comme des frères. Pas des demi-frères, mais comme des frères au sens, au fil des enfants, des femmes de Yaakov. Et c'est pas tout fini, n'est-ce pas? On est en train de dire Yaakov, Yosef. Alors, on nous a dit qu'il était un nahar, qu'il paissait les troupeaux avec ses frères. Il était un nahar, il se conduisait, dit Rashi, comme un adolescent. Il était avec les fils de Bila et Zilpa, qu'il considérait comme des enfants, des épouses de son père, va y avait Yosef et dibatam ra'a el aviem. Et c'était un rapporteur. Alors, l'accent, il est mis sur Dibatam Ra'a. Il rapportait ce que faisaient les frères, en mettant l'accent chaque fois, mettant en évidence ce qu'il faisait de mauvais à ses yeux à lui. Tout ce qu'il voyait de mal chez ses frères, les fils de Léa, il le racontait à son père. Le Ramban estime qu'il s'agissait de médisance concernant les fils de Bila et de Zilpa, de sorte que Yosef était haï par ceux-ci à cause de ses rapportages, et par les fils de Léa à cause de la préférence que lui manifestait leur père. Donc Yosef est haï par ses frères, pour deux raisons d'après Ramban. Les Zilpa, parce qu'ils racontaient ce qu'ils faisaient de mal, les fils des servantes, et les autres, les fils de Léa, parce qu'il y avait une préférence pour Yosef, qui était le fils de Rachel. À ces deux titres-là, Yosef était haï par ses frères. Intéressant, c'est-à-dire, on passe au stade de la constitution du clan d'Israël. Les rapports, c'est des rapports de haine, de délation et de haine. C'est incroyable, hein? Bon. V'Israël ahav et Yosef mikol banav. Alors, la paracha, elle a commencé par parler de Yaakov. Vayeshev Yaakov, Eretz Megure Aviv, Toldot Yaakov. Et puis maintenant, on nous dit, V'Israël Ahav et Yosef, Mikol Banav. Pourquoi ce changement de Israël? Pourquoi c'est pas marqué Yaakov? On a déjà dit deux fois Yaakov, on aurait pu dire Yaakov, non? Alors le Netziv, il s'arrête sur ce changement de nom et il dit l'elamdenu shelo haita ahava mishum dvarim gufaniim veshimush tov. Il ne l'aimait pas parce que pour des raisons matérielles et parce qu'il le servait bien. Et la shera bo inyanim ruchaniim. Mais il a vu des choses spirituelles. Et c'est ça que le nom Israël veut dire. Israël, c'est le nom qu'on lui a ajouté au titre de la spiritualité, quoi, si on veut. Donc c'est parce que il a vu chez Yosef des choses spirituelles, chez Raoul et Ahava, qui sont dignes d'être aimés, sont dignes d'amour. Maintenant, c'est marqué Mikol Banav, de tous ses fils. Velo mikol echav, comme dans le verset qui va venir sur le prochain verset. Elamdenu she mikol makom lo mitzad ha-ma'ala lachud ahavo biyoter. Ela mitzad she ma'ala yetera shel Yosef yoter mishar banav haita b'teva Yaakov. Asher miteva abanim להשתוות לטבע אביהם, כמו שאמרו חז"ל, האב זוכה לבנו, וכמליצת חז"ל, ברא הכרה דאבוה, וזה היה יוסף מצוין, אבל בשאר מעלות אפשר שידע יעקב שיש אנשי מעלה בבניו יותר ממנו. Il dit que, en fait, ça nous enseigne que c'était pas seulement parce qu'il avait des qualités qu'il l'aimait, mais parce que Yosef avait cette nature d'être très ressemblant de Yaakov. Yaakov se voyait dans Yosef, plus que dans ses autres fils. Mais du point de vue des qualités intrinsèques de chacun, on peut très bien penser que Yaakov savait qu'il y avait des frères qui avaient des qualités meilleures que celles de Yosef. Mais il y avait une composante que les autres sur laquelle Yosef n'est pas fautif, n'y a aucun mérite. Il ressemblait à son père. On dit qu'il vend zekuni moulo, ben salok tonet passim. Il dit que c'est un fils de sa vieillesse, littéralement. Et il lui fait cette fameuse tunique. On verra ce qu'il faut en dire, enfin ce qu'on peut en dire. Il dit qu'en réalité, c'est ce qu'on veut dire ici quand on dit que c'est le fils de sa vieillesse, ça veut dire que Yaakov avait choisi parmi ses fils, un de ses fils pour rester auprès de lui, pour le servir un peu. Donc il était proche de lui. Et peut-être que le fils qui est choisi, ce n'est pas obligatoirement celui qui a le plus de qualité. Mais dans cette mida, Yosef était dans la même mida que Yaakov, c'est-à-dire le chesed et l'amour de la paix, en quelque sorte, qui était la caractéristique de Yaakov. Dans ce domaine-là, Yosef lui ressemblait beaucoup. Alors, il lui a fait ktonet passim. Il a fait une tunique. Alors, par exemple, ici, ils ont traduit une tunique de fine laine. Là, ils ont traduit une robe bigarrée. C'est Ibn Ezra. Alors, par exemple, sur cette robe bigarrée, le Sforno dit que une robe de ce style-là, c'est un insigne du chef. Non.
Il y avait l'expérience.
Le natif dit que il a fait donc cette connaître passim. Parce qu'elle allait jusqu'à la paume de la main. Passe, c'est la paume de la main. Donc, il avait des longues manches qui couvraient une partie de la main. C'est comme ça que dit effectivement le Ramban, donc Parshat Tetzaveh aussi, que c'était comme ça dans les vêtements du Kohanim, il y avait aussi cette idée de couvrir une partie de la main. Vayiru Echav, Yoto Avaviem Mikol Echav. Ses frères ont vu que leur père l'aimait mieux qu'eux-mêmes. Vaisnu Oto. Ils l'ont haï. Velo Yachlu Dabro le Shalom. Ils ne pouvaient pas lui parler en paix. Ils ont vu, et c'est ça qui a causé leur haine, parce que il n'avait rien dit sur ces frères-là, d'après le mec d'Avar. Il n'avait pas dit, le mal, il l'avait dit seulement sur les fils de Bila et Zilpa. Mais eux, ils vont le haïr pour des raisons de jalousie. Donc il ne pouvait pas lui parler normalement. C'est-à-dire que Netziv, il dit qu'il ne pouvait pas lui parler normalement parce que eux, ils le haïssaient et ils pensaient que lui aussi les haïssait en retour. Voilà. Eux, ils le haïssaient, ils pensaient que lui, il est sûrement en train de nous haïr. C'était insupportable. Et alors, on arrive très vite au cœur du sujet. Vayachalom Yosef, chalom. Bon, un rêve. Un rêve, il rêve comme son père a rêvé. Lui aussi, il rêve. Vayaged le'echav, vayosifu od snoto. Il a rêvé et il a raconté son rêve. Et ils l'ont encore plus haï. Alors, il leur a raconté le rêve. Yomer Alehem, Shimuna, écoutez s'il vous plaît, Achalom, ce rêve que j'ai fait. Voilà, nous étions là, on était en train de mettre en gerbe le blé, et sur le champ. Et voici, ma gerbe s'est dressée, et les vôtres l'ont entourée, elles se sont prosternées à ma gerbe. Alors les frères lui ont dit, dis-moi, tu crois que tu vas régner sur nous? Avec notre accord ou sans notre accord? Et du coup, ils le haïssent encore plus pour le rêve et pour les paroles. Alors, on revient tout de suite. Vayachalom od chalom acher, il re-rêve, il le raconte de nouveau. Il leur dit, voilà, j'ai rêvé, encore une fois, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternent devant moi. Il raconte ça à son père et à ses frères. Son père l'a un peu rabroué, il lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve que tu as fait? Est-ce que... moi et ta mère, nous et tes frères, on viendrait se prosterner devant toi. Les frères l'ont jalousé. Son père, il a gardé la chose sous le coude. Shamar et Tadavar, il s'est dit, on va voir ce que ça va donner. Alors, il faut essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Pourquoi il leur raconte ça? La halakha, la Gemara, elle rapporte que quand quelqu'un fait un rêve, et que c'est un rêve qui le trouble, alors il va se le faire interpréter par quelqu'un qui l'aime. Et alors, il ne s'agit pas d'aller raconter le rêve. Parce que il y a une règle dans l'interprétation des rêves que « akol olech aharapé » tout va d'après la bouche, ça va d'après l'interprétation du rêve. C'est-à-dire le rêve, il va se réaliser selon la formulation qu'on va lui donner. Il faut essayer de penser comme ça. Imaginez, le rêve, c'est comme quelque chose qui est encore informe. Si vous voulez, c'est comme de l'ouate. Hein, ça n'a pas encore une forme. Mais quand tu vas le parler, ça va lui donner une certaine forme. Donc évidemment, il faut aller le faire interpréter par quelqu'un qui te veut du bien. En plus, dans l'interprétation du rêve, on n'est pas du tout obligé de prendre tout le rêve. Donc, qu'est-ce que fait celui qui a rêvé? Il va, et si lui raconte le rêve, c'est fini, il l'a mis en forme. Donc, il ne faut pas qu'il le raconte. Il faut qu'il lui dise, dans mon rêve, il s'agissait de... Là, il aurait dû le raconter, donc, voilà, il s'agissait là-bas de gerbes. Et il y a une gerbe qui se dresse, les autres se prosternent. Il ne donne pas de rapport... Mais c'est eux qui vont l'interpréter. Et eux, ils ont très bien compris et ils ont dit, quoi, tu veux régner sur nous? Donc ils ont compris que c'était sa gerbe. Dans le texte, pour nous, le texte nous dit qu'il a dit que c'était sa gerbe qui était au milieu, mais ça, certainement, il n'a pas dit ça, parce que s'il avait dit ça, il aurait déjà donné une forme. Donc, ça ne sert à rien de le raconter. Et s'il veut raconter, il faut lui donner seulement des éléments qui permettent à l'autre de choisir de faire le tri dans le rêve et de choisir quelque chose qui permette d'interpréter le rêve de façon favorable. Et on a le droit d'éliminer énormément de choses parce que c'est le rêve, dans le rêve, il y a toujours ce qu'on appelle dvarim betelim, des choses inutiles. Et puisqu'elles sont inutiles, eh bien, on n'a pas besoin on peut décider qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qu'on va utiliser dans l'interprétation du rêve.
En fait, il faut rester neutre quand on raconte son rêve.
Oui, il faut pas le raconter le rêve. Il faut donner des éléments qui permettent, si vous voulez, c'est comme quand on, je sais pas, comme à l'école, on vous dit voilà, vous racontez une histoire, elle doit contenir ces mots-là, etc. Maintenant, l'histoire, vous la faites comme vous voulez. Donc le rêve aussi, il y a des éléments fixes, et le reste, tu peux raconter comme tu veux, tu peux. Mais là, justement, probablement qu'il a raconté très très peu de choses. Mais c'était tellement parlant et que même son père, et le père il lui dit que c'est pas possible ton rêve parce que ta mère elle n'est pas vivante, donc moi je peux pas venir. Elle peut pas venir se prosterner, donc ton rêve est faux. Mais bon, il sait très bien que même dans le récit qui est les éléments qu'il a donnés, il y a des éléments de Varim Betelim, des choses qui sont fausses. Ok, mais il y a quand même cette idée que on va venir se prosterner. Donc, son rêve, c'est ça. Alors maintenant, il y a deux sortes de rêves. Il y a les rêves qui sont, on rêve la nuit selon ce à quoi on a pensé la journée. Et souvent, on rêve et c'est dans le rêve qu'on termine les dialogues qu'on n'a pas terminés ou qu'on a l'idée d'une telle rêve. Oh, j'ai une idée, ou bien j'aurais dû répondre ça, j'aurais dû faire ceci, etc. Tout ça, c'est dans le rêve. Donc, et puis il y a des rêves qui sont vraiment, Hachem envoie un message, quoi, quelque part. Donc eux, ils ont pensé que s'ils rêvent de ça, c'est que toute la journée, ils pensent à être leur roi. Ils pensent que son père l'a fortifié aussi dans cette idée-là. Son père lui a donné un habit très important qui marque une certaine dignité, une certaine supériorité. Et puis il le privilégie. On dit que Yaakov a raconté des choses, toutes sortes d'enseignements qu'il n'a pas raconté aux autres, à ses autres fils, parce qu'il pensait qu'ils n'en avaient pas besoin, peut-être, mais il lui a donné à lui toutes sortes d'indications qu'il n'avait pas données aux autres. Donc les autres, ils ont très bien compris, et du coup, ils l'ont haï, et encore une fois. Maintenant, il faut voir que s'il les a choisis, eux, pour le raconter, c'est que lui, il pense qu'il l'aime.
Oui, ça.
Sinon, donc, il se trompe. Parce qu'on ne va pas raconter à des gens qui vous haïssent. Donc lui, il y va, il le haïsse, mais il n'en a rien vu, parce que le deuxième rêve, il le raconte, alors qu'on nous a dit qu'ils ont encore ajouté une couche de haine après le premier, alors maintenant il raconte le deuxième. Donc lui, il pense qu'il l'aime. Il ne peut pas penser. Et eux, ils auraient dû comprendre aussi que c'est faux. Ce rapport de haine, il les considère. Si lui, il avait de la haine pour eux, il ne raconterait pas non plus le rêve. Donc c'est marrant, ils ne sont pas attentifs au fait qu'il raconte. Le rêve, il devient tellement énorme qu'ils ne voient que le rêve. Et ils ne voient que l'interprétation du rêve qu'ils vont donner. On voit mal comment l'interpréter autrement. N'est-ce pas? C'est très parlant quand même. Et puis ça se répète. Bref. Ensuite, alors ici, on entre là dans, c'est du délire là maintenant.
Excusez-moi, pourquoi est-ce que le premier rêve il le raconte qu'à ses frères, pas à son père? Il y a une raison.
Non, parce que il y avait seulement les gerbes de ses frères et les siennes. Ah. Donc c'est comme ça que. Voilà, ici maintenant ça commence à devenir difficile. Vayomer Israël et Yosef. Alors, achecha roim bishchem, lecha veshlachacha lehem, vayomer lo hineni. Yaakov convoque, enfin, c'est Israël là maintenant. Donc là, on est aussi, si on utilise l'indication précédente, on est dans le spirituel là. Il se passe de quelque chose de... Alors il lui dit, tes frères, ils sont en train de faire paître les troupeaux à Shrem. Alors, en réalité, Yaakov lui dit, donc Israël lui dit, tes frères, ils sont en train de faire paître à Shrem. Shrem, c'est Naplouse, oui. Va, je t'envoie auprès d'eux. Et Yosef lui dit, Hineni, je suis prêt. Vous savez, ce mot Hineni, il est toujours, normalement, on dit Hineni quand quelque chose de iné, ça veut dire, le iné veut dire, voici quelque chose qu'on n'attendait pas qui se produit. Et me voici et je suis prêt à tout. Et c'est pour ça que Rashi dit, Hineni lashon anava uzrizut. C'est une posture de modestie, c'est-à-dire en fait, il s'oublie complètement, il se met totalement au service de son père. Et zrizut, je suis prêt. Je suis très zélé. Nisdarez le mitzvah taviv. Donc il se dépêche pour faire la mitzvah de son père. Vafalpi shayodea be'echav shesonim oto. Alors ici, Rashi dit, il le fait, il va aller là-bas, et lui, il sait que ses frères le haïssent. C'est entre, là, il a compris finalement. Après le deuxième rêve, il a dû comprendre que, eh ben, il le haïssent. Et Yaakov, il sait bien qu'il le haïsse aussi. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre, si vous voulez, pourquoi il l'envoie. Il l'envoie au casse-pipe. Donc ici, cette idée d'envoyer son fils aimé, chez ses frères, qui le haïssent, c'est parce que il se passe quelque chose qui dépasse Yaakov. Yaakov n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire, c'est pas possible. Sachant ce qu'il sait sur les frères, il peut pas. Et ce qui est intéressant, c'est que Yosef, il ne lui dit rien. Il accepte d'aller alors qu'il sait qu'il le haïsse. Et quand il dit Allo achecha roim bishchem, alors il y a un problème. Le pasouk précédent qui disait justement Vayelchu echav lirot et tzonaviem bishchem, vous voyez sur la les deux lettres du mot et, il y a des signes, il y a des points. Vous voyez dans le verset 12 et tzon, la particule et, elle est ponctuée. Rachidi nakud al et, c'est ponctué. Shelo alchu ela lirot et atzman. C'est-à-dire, quand on écrit faire paître et tsonaviem, ils sont allés faire paître, et c'est l'indication du complément d'objet direct, si vous voulez. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire paître? Le menu bétail de leur père, Hachrem. Mais les points disent qu'il faut enlever ces lettres. Enlève les lettres. Alors tu lis, Les frères sont allés, Lirot, ils sont allés se faire paître eux-mêmes. Ils sont allés faire des vacances, quoi. Ils sont allés prendre du plaisir, etc. C'est ça que la Torah veut dire. Ils sont partis là-bas, peut-être ils sont allés se... Comme c'est juste après l'histoire du rêve, c'est tellement énorme, à la limite, ils n'en peuvent plus, bon, ils sont allés décompenser avec les troupeaux, quoi. Enfin, ils sont allés paître, littéralement. Alors, il l'envoie là-bas. Et il lui dit, Lechna re'e et shlom achecha, va s'il te plaît, voir si tes frères vont bien, et si le troupeau de menu bétail va bien, va shiveni davar, et viens me faire ton rapport. Vaishalcheu me emek chevron vayavo shchema. Et il l'a renvoyé de la vallée de Chevron. Voilà, et le texte dit, voilà, il est arrivé à Shchem. Ce mot de Emek Hebron, ça frappe. Vous savez bien que Hebron, c'est sur une colline, c'est une montagne. Je veux dire, la vallée de Hebron, ça n'existe pas, la vallée de Hebron. Ça veut dire, mais Emek Hebron. Rachid le dit. Balo Chevron Bahar. Chevron, c'est dans la montagne. Shenemar vayalu ba Negev vayavo ad Chevron. Comme c'est marqué dans le récit de pérégrination des explorateurs. Ils sont venus par le sud, ils sont montés jusqu'à Chevron. Alors comment, puisque on ne peut pas lire qu'il s'agit de la vallée de Hebron. Donc dit Rashi, il faut dire Ela, mais Eitsa Amuka, chez l'auto Tzadik Akavur be Hebron. Il l'a envoyé, et ça fait partie de la chose extrêmement profonde concernant le Tzadik qui est enterré à Hebron, c'est-à-dire Avraham Avinu. C'est-à-dire, il s'agit ici de mettre en marche le processus de la promesse qui a été faite par Hachem à Abraham Avinu, donc à Brit Ben Abtarim, que tes enfants ils seront étrangers dans un pays étranger où on va les torturer, on va les faire souffrir. Donc ici, c'est pas du tout. Donc, la Torah, elle nous dit sous cette forme-là que ce qui se passe, c'est pas du tout que Yaakov est en train de l'envoyer parce qu'il a vraiment besoin de... C'est n'importe quel prétexte. La vérité, c'est que les frères, quand ils étaient à Shrem, toutes les semaines, il y en avait un d'entre eux qui allait chez son père et qui donc apportait une nouvelle fraîche sur l'état des frères. Les autres frères, et sur l'état des troupeaux. Donc Yaakov, il savait pertinemment toutes les semaines exactement ce qu'il en était. Donc Yosef, il ne pouvait apporter aucune information. Parce que le temps qu'il aille, lui, il y aura déjà le prochain frère qui va revenir. Yaakov, il n'en saura pas plus en envoyant Yosef. Donc, comme, c'est pour ça que si on entend le remez, l'indication qui est donnée par cette expression de Emek Hebron, il s'agit de quelque chose de tellement important, c'est pour ça que ça commence avec Israël et pas Yaakov. Donc il arrive là-bas à Shrem. Et il rencontre là-bas Ish, il rencontre un homme. Alors, Rashi rapporte que cet homme, c'était Gabriel. C'est l'ange Gabriel. Et il lui demande, qu'est-ce que tu cherches? Parce qu'il a vu que il avait l'air d'errer, Yosef a l'air d'errer, il ne sait pas où chercher. Alors il lui demande, mais qui tu cherches? Vayomer et achai anochi mevakesh. Je cherche mes frères. C'est devenu un slogan. Je cherche mes frères, c'est-à-dire les juifs cherchent leurs frères. Agidana li efoem roim. Dis-moi s'il te plaît où ils pèsent. De nouveau ici, il manque le. Où ils font paître les troupeaux, non? Où ils pèsent? Alors il lui dit, Yomer Aish, Nasu Mize, ils sont partis d'ici. Il Shamati, Omrim, je les ai entendus dire, Nelcha Dotaina. Allons vers Dotan. C'est un lieu, mais évidemment. Mais bon, c'est Rashi ramène que ça fait référence au fait qu'ils allaient essayer de le tuer. Vayiru oto merachok. Donc il est allé dans cette direction et eux ils l'ont vu arriver de loin. Uveterem ikrav alehem, ils l'ont vu bien avant qu'il s'approche d'eux. Vaitnaklu oto lamito, ils ont comploté pour le tuer. Voilà, ils vont le tuer. Vayomru ish elechav, ils se sont dit les uns aux autres, Iné Baal Achalomot Alazeba, le voilà le rêveur. Et maintenant, le Chouv Nargeu, voilà, tuons-le, Nashtekreu Bachad Aborot, on va le jeter dans un des puits, Ve'amarnu Chayara Achalatu, on dira que, vraisemblablement, un animal sauvage l'a bouffé. Venire Mayu Chalomotav. On verra bien ce qu'il va devenir de ses rêves. C'est vraiment, c'est incroyable. Ce sont vos ancêtres. Enfin, c'est les miens aussi. Hein. Le Ramban, il ramène un Midrash. Il voulait pas se salir les mains, il voulait pas le tuer, Biadaim. Alors ils ont excité les chiens contre lui. Ils ont lancé les chiens contre lui. Mais les chiens ne lui ont rien fait. Et donc quand ils disent on va le tuer, c'est après avoir essayé de le faire mourir, ils ont dit on va le tuer maintenant. Vaishma Rouven. Rouven a entendu Yatsileu Miyadam et il l'a sauvé. Vayomer Lona Kenunafesh. On ne va pas frapper à mort quelqu'un. Vayomer Alehem, il leur a proposé la chose suivante. Vayomer Alehem, Reuven, Altish Pechudam, ne versez pas le sang. Ashlichu oto el labor azé, Asher Bamidbar, Veyad, Altishluchu bo, Leman atzil oto mi Adam la Shivu el Aviv. Il leur dit, écoutez, jetez-le dans un des puits ici, dans le désert, mais ne lui faites pas de mal. Sous-entendu, voilà, il va mourir, mais nous, on ne lui aura pas fait de mal. Lui, il a pensé, dit le verset, il voulait le sauver, il voulait le ramener chez son père. C'est Reuven, c'est le Bechor quand même. Même si, en fait, on lui a quasiment tout enlevé, finalement. Mais il se sent responsable. Et ça va pas marcher, mais les choses vont pas se faire comme il croit. D'où est-ce qu'on sait que Reuven voulait son bien? Rashi dit, Ruach HaKodesh Eida al Reuven, Shelo Amar Zot Ela Latzil Oto. Puisqu'il a dit, Ani Bechor, Vegadol Shebekulad, moi je suis le premier-né, je suis l'aîné de tous, Lo Itle Asirchon Elabi, finalement c'est moi qui vais porter le chapeau. Donc il n'a pas voulu le. Il ne voulait pas qu'on le tue.
Il a eu peur pour lui, pas pour.
Bon, il ne voulait pas non plus. Il a pensé que bon, c'est moi qu'on accusera évidemment d'être responsable. Alors, Vahi Kasher Ba Yosef El Echav. Donc, quand Yosef est arrivé à eux, près d'eux, puisque les chiens n'avaient pas bouffé, Vayafshitu et Yosef et Kutanto, et Kutanet Apassim, Asher Alab, Asher Alab, oui. Donc, ils l'ont déshabillé, ils lui ont enlevé cette tunique bigarrée, ou etc. qu'il portait. Vaikahu, ils l'ont pris. Vaishlechu, oto, abora. Et ils l'ont jeté dans le bord. Jeté dans le puits. Abor, rek. Mais c'était un puits qui était vide. Ein bo maim. Un puits dans lequel il n'y avait pas d'eau. Donc ils ont commencé, si vous voulez, par le. Lui enlever ce qu'il avait de plus qu'eux. Il a enlevé la cotonnette, il a enlevé la tunique. Alors maintenant, terminé. Et puis, voilà. Dans la Torah, on marque pas du, il n'est pas du tout marqué qu'ils l'ont jugé. Les Chachamim vont dire qu'ils l'ont jugé. Ils l'ont condamné à mort comme étant Moret Bemalchut. Ça veut dire, comme lui, ils ont compris qu'il voulait régner sur eux, et comme le roi qu'ils avaient désigné, la tribu royale, c'est Yehuda, était considéré comme quelqu'un qui se révolte contre le roi pour prendre sa place. Et ça, c'est passible de mort. Le type, il dit qu'il devait porter vraisemblablement deux tuniques, parce qu'après, quand ils vont le vendre, ils n'ont pas vendu torse nu, je veux dire, ils l'ont vendu avec quelque chose. Quand même. Donc il n'y avait pas dans le puits il n'y avait rien, il n'y avait pas de pierre, il n'allait pas se briser la tête ou en tombant, etc. Un bon maïm. Il ne voulait pas qu'il soit noyé. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si eux, ils l'avaient tué à main nue. Alors Chazal font la dracha que vous connaissez certainement. On dit le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Évidemment que si on a dit que le puits était vide, il n'y avait pas d'eau, on n'a pas besoin de le préciser. On veut dire par là qu'il n'y avait pas d'eau, mais il y avait autre chose. Ça vient dire qu'en réalité, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait les serpents et les scorpions. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, ici, au lieu d'être tué par les hommes, il serait donc tué par les animaux, par la nature. On dit qu'il vaut mieux, certaines fois, avoir affaire à la nature qu'aux hommes. Vayeshvu le'echol lechem, vayisu enehem, vayiru, vine ochat ishmaelim ba'a, migilad, kmalehem nosim, נחות, חוצרי, ולות, הולכים להוריד מצרימה. Voilà, il le jette là dans le puits. Et eux, ils vont manger. Il faut pouvoir, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il avait la conscience absolument tranquille. Alors il y a le fameux Midrash, c'est Ilim, qui dit que effectivement. Eux, ils pensaient, ils avaient la conscience tranquille. Parce qu'ils ont prononcé, je vous ai dit, la peine de mort sur lui, pour les raisons qu'il était à leurs yeux un calomniateur, un dénonciateur, un faux témoin. Et en fait, l'opinion dit que Yosef était considéré comme un usurpateur, comme je vous ai dit, quelqu'un qui contestait, qui voulait prendre le pouvoir. Ils pensent qu'ils sont en légitime défense. Donc ils mangent. Mais le Midrash dit que la Midat Adin, elle va réclamer son dû, en fait, son droit. Et le Midrash dit que on leur a reproché, vous avez vendu votre frère, a dit un bat kol, une voix du ciel, tout en vous attablant à un festin. L'heure viendra où vos enfants seront vendus au milieu d'un festin. Donc c'est évidemment Pourim. Lorsque Achashverosh et Aman s'attablent pour boire et ils décrètent qu'ils vont exterminer les Juifs. Je ne sais pas si à la conférence de Banzé il y avait à manger. Sûrement quelque chose. Et ils ont, voilà, tout à coup ils ont levé les yeux et ils ont vu une caravane d'Ishmaélim. Des gens qui arrivent, qui viennent là et qui transportent toutes sortes de. De bonnes choses, quoi. Ils transportent. On va voir que ce qui est important, c'est qu'ils ne transportent pas des choses qui ont des mauvaises odeurs. Il dit qu'ils ont traduit ici aromates, baumes, du lotus. C'est des choses, c'est plutôt des parfums, quoi. Et donc ils disent et ils vont en Égypte. Yomer Yehuda et Echab. Alors ça voilà, c'est le roi qui parle. Yehuda dit à ses frères, ma betsa kina ou betachinu, le fils inou et damo. Qu'est-ce qu'on va gagner à le tuer et en cacher, on va couvrir son sang. Le coup, allons-y, vendons-le au Ishmaélim, viadenu al tibo. Comme ça, on ne touche pas. Ki achim besareinu hu vaishmu echab. Il nous a dit, ki achinu, il est notre frère, il est de notre sang, on dirait aujourd'hui, notre chair. Et les frères l'écoutent. Tout à coup, il a un autre discours. Alors, vaya avru anashim midyanim, socharim, vaim shechu vaya alu et Yosef minabor, vaim kru et Yosef la Ishmaelim, beeshrim kasef, vayaviu et Yosef mitzraima. Donc, ces gens-là, ils ont décidé de leur vendre. Et un midrash assez étonnant, c'est-à-dire qui soulève plein de problèmes en même temps. C'est que quand Yehuda a argumenté avec ses frères, il leur dit, ok, si on le tue, alors on aura gagné qu'on ne va pas devenir ses esclaves, puisqu'il n'est plus là. Il voulait régner sur nous, donc on allait devenir ses esclaves. Non, ça on n'aura plus, si on le tue, on a réglé. Mais on aurait peut-être pire, parce qu'à ce moment-là, il y a le fameux décret des 400 ans d'esclavage annoncé à Abraham, et donc on va devoir en passer par là. Donc on va se défaire des deux esclaves à la fois, en le vendant aux Ishmaélites, il sera lui-même leur esclave, et puisqu'il se trouve déjà dans cet état, c'est sur lui et ses descendants qu'Hachem accomplira le décret des 400 ans. Il y avait cette fameuse promesse qui a été faite à Abraham, « Nous, tes enfants, ils seront esclaves. » Alors c'était marqué 400 ans. Finalement, il ne restait que 210 ans en Égypte. Mais après, il y a tout un problème à partir de quand on compte l'exil et depuis la naissance de Yitzhak ou peu importe. Et donc, il dit, il vaut mieux le vendre parce que comme il sera déjà, lui, en exil, ça sera sur lui que ce sera lui le continuateur d'Abraham, finalement. Et nous, pas. C'est étonnant parce que s'ils savent que c'est nécessaire pour le peuple juif d'en passer par l'Égypte, enfin, c'était pas nécessairement en Égypte, mais par l'exil, alors comment, qu'est-ce qu'ils croient? Ça veut dire quoi? Finalement, ils abandonnent. C'est pour ça que je dis ce midrash, je sais pas encore comment il faut le comprendre, parce que c'est comme s'ils disaient, le descendant d'Abraham, ce sera lui, Yosef. Et nous, non. On ne sera plus les descendants d'Abraham. On est les fils de Jacob, mais sinon on ne va pas en exil. Alors, moi qui pense que peut-être qu'il n'est pas nécessaire que tout le peuple juif passe en exil, une partie, et après, ils vont se retrouver. Je sais pas, peut-être on peut dire ça comme ça. Parce que sinon c'est difficile d'imaginer. Ils étaient en train d'abandonner le bateau, quoi, complètement. Alors, il faut répéter quand même que Yosef lui-même, quand il rapporte la mauvaise conduite supposée, parce qu'il s'est trompé, il a mal jugé les choses. Et eux, ils ont fait exprès de faire des choses très ambiguës pour qu'ils racontent des mensonges. Mais bon. Et Yosef, il a pensé qu'étant donné que ses frères ne sont pas des gens bien, son père, Yaakov, a raté ce qu'il avait à faire. Donc, c'est pas lui qui a... Il a bien eu 12 fils, mais c'est pas les 12 fils qu'il fallait avoir. Et lui, Yosef, il sait qu'il est porteur de 12 fils. Lui aussi, il a 12 fils en potentialité. Donc lui, en fait, il pense que c'est lui qui sera le... que son, comme d'une certaine manière, son père, c'est un coup pour rien, quoi. Il pense que c'est lui qui sera l'héritier. Bon, alors, il comprend que ça ne sera pas le cas, parce que, avec l'histoire de Madame Potiphar, il comprend bien que il n'a été sauvé qu'avec l'image de son père. Donc, il a compris qu'il ne pouvait pas considérer que son père avait échoué et que c'était lui le véritable. Et parce que, dans l'histoire de Madame Potiphar, c'est marqué qu'il est allé très très loin avec elle et qu'il avait quasiment de la semence qui sortait entre les doigts, c'est marqué. Donc on dit qu'il y avait 10 gouttes de semence qu'il a perdu à ce moment-là, et donc il n'a eu que 2 fils, puisqu'il en a perdu 10 potentiellement avec cette histoire avec Madame Potiphar. C'est pour ça qu'il a Ephraim et Ménaché, seulement il n'a pas d'autres fils. Et donc, si vous voulez, cette idée que lui, il avait, qu'éventuellement, ce serait lui le successeur, ben, les frères, ils ne sont pas loin de penser la même chose. C'est lui qui va vraiment porter le fardeau d'être le successeur. Mais peut-être, il pense que lui et sa descendance. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas exactement comment il faut lire ce midrash. Est-ce que vraiment, il pensait qu'il y aurait une branche de... Donc, Yaakov, c'est un coup pour rien, quoi. C'est qu'eux aussi considèrent qu'ils sont. Bon, on est des gens bien et on s'est débarrassé, mais c'est pas par nous que ça va passer, quoi. On passera par lui. Et nous, on n'a pas envie, et Yehuda, il dirait ici, bon, on n'a pas envie de ces 400 ans d'esclavage. On peut faire l'économie en le vendant. C'est un peu énorme, quoi, comme idée, mais bon, on est dans l'énormité de toute façon ici, là. Alors, les frères ont été d'accord. Donc, lui, il a, en quelque sorte, utilisé son pouvoir royal. Il a, parce qu'il a commué la peine de mort en une peine d'exil. Bon, il a vendu et d'esclavage. Alors, les frères vont l'écouter. Et là, le verset dit, ils l'ont écouté et ils vont le lui resservir à Yehuda quand ça va mal tourner. Ils pensent que ça va mal quand Yosef est roi, etc. Ils vont lui dire, écoute, tout ça c'est de ta faute, parce que quand tu nous as dit que tu voulais commuer la peine de mort en exil, esclavage, on t'a écouté. Si à ce moment-là tu aurais dit, libérons-le, renvoyons-le chez son père, on t'a aussi écouté. Donc ils ont compris ce qui leur arrive comme tuile, là, avec Shimon, avec la descente de Binyamin, etc. Ils disent, papa, il nous arrive quelque chose, on a fauté. Et il dit, mais c'est ta faute, parce que nous, on était prêts à t'écouter, et toi, tu nous as pas donné le bon conseil. Et c'est pour ça que, à ce moment-là, quand il n'y a pas le bon conseil, si vous voulez, Yehuda, il va déprimer complètement. Parce que tout ce qu'on nous dit, voilà, on dit, voilà, les gens sont passés, ils l'ont vendu, et ils ont raconté des histoires, ils ont trempé l'actonnette dans le sang, etc., pour tromper dans leur père. Et ici, tout à coup, on a... le récit de l'histoire de Yehuda et Tamar en plein milieu. On ne sait pas du tout ce que ça fait là. Encore, vous avez les Midianim qui vendent Yosef en Égypte, et on continue. Et on embranche tout de suite dans le nouveau chapitre sur, à ce moment-là, Voilà, histoire de Yehuda. Et Vahi Baetai Vayered Yehuda Metechav Vayet Ad Ish Adulami Ushmo Chira. Et alors, voilà, Vahi en général, quand ça commence par Vahi, ça tourne mal. Mais pourquoi cette parcha est là, dit Rashi? Pourquoi est-ce qu'on s'interrompt dans le processus de ce qui se passe avec Yosef? Ça vient nous dire, She'oridu echav migdulato, que she'ra'u be'tzarat aviyem. Quand ils ont vu combien Yaakov était affecté, ils ont dégommé Yehuda. Ils ont dit, bon, c'est plus toi le roi. Parce que tu n'as pas été capable de donner un bon conseil. Ata amarta le mocho, ilu amarta le hashivo, aynu shomim lecha. Tu as dit de le vendre. Si tu avais dit de le libérer, on t'aurait écouté. Alors là, il descend. Après qu'il est bon, enfin, il n'est pas en super forme, quoi. Mais il voit là-bas un bonhomme, Hira. Il voit là-bas une fille de marchand, on dit, qui s'appelle Shua. Et il prend cette femme et il l'épouse. Elle lui donne un fils, on l'appelle Er, un deuxième, elle l'appelle Onan, et un troisième, on l'appelle Shela. Et alors, ben voilà, elle a arrêté de... Voilà, si elle n'avait plus d'enfants à ce moment-là, et bon, il se passe un certain temps puisque Yehuda prend une femme pour son Bechor, femme qui s'appelle Tamar. Et lui, Er, il se conduit mal aux yeux d'Hachem. Il ne voulait pas que sa femme soit enceinte. Il ne voulait pas qu'elle soit déformée par la grossesse. Donc, il se débrouillait pour avoir des rapports non fécondants. Son frère, il est mort. Après, il y a la mitzvah de Yiboum. Alors, c'est son frère qui devait l'épouser. Donc, il l'épouse, mais il ne veut pas. Lui, il ne va pas. Comme on dit que quand elle épousait, c'est en quelque sorte pour assurer une descendance. C'est spirituel. Une descendance à son frère mort. Lui, il veut rien donner à son frère, donc il veut pas de descendance non plus. Même tableau, et il meurt. Donc maintenant, c'est Shéla qui devrait épouser, c'est lui, Shéla, le troisième fils, qui devrait épouser Tamar dans la loi de Yiboum. Mais Yehuda, il s'est dit, j'en ai déjà perdu deux, avec cette femme-là, je risque pas le troisième. Mais du coup, ben elle reste, elle est veuve, et en attente de Yiboum, elle ne peut pas se remarier. Alors il lui dit, écoute, on va attendre que Shéla devienne un peu plus âgée, et tout. Et c'est devenu un peu long. Et Yehuda a perdu sa femme. Et il s'est consolé. Et puis, il s'est mis en marche. Il avait les troupeaux. Il part avec son intendant. Ils vont aller tondre les troupeaux. Alors, Tamar, elle apprend que son beau-père va passer près de chez elle, pas trop loin, et elle décide de se faire passer pour une prostituée. Comme il ne la connaissait pas vraiment, pour toutes sortes de raisons, elle le sollicite et lui cède. Et alors, seulement quand il veut lui, il lui dit, oui, il veut avoir un rapport avec elle, elle lui dit, mais qu'est-ce que, combien tu me payes? Et comment tu me payes? Elle dit, écoute, j'ai pas un rond, j'ai pas un sou, mais alors, comment je peux faire? Mais je vais monter à l'alpage, là, ou je sais pas les Alpes, mais bon, je vais monter tondre mes. Et je t'envoie un agneau. Il dit d'accord, mais en attendant, ben, j'ai rien. Alors il dit écoute, ça et ça, je te prends comme gage. Elle lui prend les insignes de sa royauté, en fait. C'est tout ce qu'il a. Et bon, lui, il y va, ils arrivent là-haut, il prépare il lui envoie un agneau par son intendant. L'intendant, il a dit, à la croisée des chemins, là-bas, il arrive là-bas, il n'y a personne. Alors, il se renseigne, il dit, où elle est, la prostituée? Il n'y a jamais eu de prostituée ici. Alors, il revient chez Yehuda, il lui dit, écoute, les gens disent qu'il n'y a jamais eu de prostituée. Il dit, je suis embêté, je ne veux pas être en dette, écoute, toi, tu sois zoché, c'est-à-dire, acquiers cet agneau pour elle. On va la chercher, mais en attendant, je t'ai déjà donné, j'ai payé ma dette, moi, je ne veux pas rester endetté, donc tu peux acquérir pour quelqu'un, il y a le droit d'acquérir pour quelqu'un, tu acquiers pour elle. Et puis après, on raconte à Yehuda, au bout d'un certain peu de temps d'ailleurs, que, ben voilà, sœur lui, tu sais, ta bru, elle est enceinte. Donc ça veut dire qu'elle était adultère, si, c'est pas un véritable adultère, mais. Mais à ce moment-là, bon, on la juge, et elle était, pour des raisons qui ne sont pas très claires, elle aurait été passible de mort ici. Donc ils vont la condamner à mort. Alors elle lui fait passer discrètement, elle lui dit, je suis enceinte de celui qui m'a donné ça. Parce qu'elle ne voulait pas le mettre mal à l'aise et de publier, ben, je suis enceinte, mais c'est de lui. Et, parce qu'à ce moment-là, le yiboum pouvait se faire avec n'importe quel membre de la famille, pas obligatoirement un frère. Donc elle pouvait le faire avec Yehuda. Mais bon, lui, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas que c'était sa bru. Il ne savait pas qui il était. Et il avait donc le choix. S'il ne dit rien, elle dit, je ne vais pas te dénoncer. Évidemment, je suis enceinte, je porte deux enfants en moi. Donc si tu dis rien, bon, je serai brûlé, les deux enfants avec moi. Il était un peu embêté parce que dans le Beit Din qui devait juger Tamar, il y avait son père et son grand-père. Il y avait Yaakov et Yitzhak dedans. Donc c'était un peu difficile pour lui de raconter toute cette histoire. Enfin, il l'a fait. Il a tzadka mimeni. Elle a raison. J'aurais dû lui donner Shela. Donc, elle avait très raison, tout à fait raison de faire ce qu'elle a fait. C'est moi qui suis en faute. Et donc, elle va donner naissance à deux enfants, dont l'un va s'appeler Peretz, et qui est l'ancêtre du Mashiach. Donc, cet enfant. Ces enfants, un des deux devient l'ancêtre du roi David d'abord, puis ensuite donc du Mashiach. Et donc, en fait, on nous raconte cette histoire, mais en parallèle, ce qui se joue en parallèle avec Yosef, c'est l'histoire de Madame Potiphar. C'est-à-dire, en fait, Yehuda et Yosef, ils ont tous les deux affaire à deux femmes qui veulent à tout prix entrer dans le peuple juif, si on peut parler comme ça. Madame Potiphar, elle a vu Beruach HaKodesh qu'elle allait avoir une descendance avec Yosef. C'est pour ça qu'elle le harcèle. Elle a mal vu. C'est pas elle, mais c'est sa fille adoptive. Sa fille adoptive, c'est la fille de Dina. Quand Dina, la fille de Yaakov, a été violée par Shrem, elle a eu une fille, s'appelle Osnat. Et Yaakov là, je sais pas pourquoi, Yaakov il décidait qu'il il voulait pas qu'elle reste là. Il l'a envoyée et elle a été adoptée par Madame Potiphar. Et on dit que quand, alors c'est juste à l'époque où, après que Yosef se trouvait en prison, et qu'après Yosef il sort de prison et il devient vice-roi d'Égypte, on se marquait que, bon, en tant que vice-roi d'Égypte, il fait un tour d'honneur, je ne sais pas quoi, et il se marquait que toutes les filles étaient sur la muraille, et elles voulaient passer le prince célibataire. Elles ont toutes envoyé leur adresse mail. Et elle, Osnat, elle était là-bas aussi, elle n'avait pas l'adresse mail. Elle a envoyé une amulette que Yaakov lui avait confectionnée pour la protéger. Elle l'a envoyée. Donc lui, il a reconnu. Joseph, il a reconnu que c'était de son père, peut-être le contenu de l'amulette. Il a recherché cette fille, il l'a trouvée et il l'a épousée. Avec la bénédiction de Pharaon, évidemment, de Pharaon. Et il l'épouse et il va avoir avec elle, il va avoir deux fils, Menaché et Ephraïm, qui sont donc deux petits-fils de Yaakov. Vous connaissez la suite. En fait, ces deux petits-fils sont, j'ai dit plusieurs fois, c'est les seuls enfants de Yaakov qui ont dans leur ascendance à la fois Rachel et Léa. Ils ont dans leur ascendance Rachel parce que leur père c'est Yosef, le fils de Rachel, et ils ont leur mère qui est la fille de Dina, qui est la fille de Léa. Tous les autres ont ou bien Rachel ou bien Dina ou bien les servantes. Et Yaakov vient et il dit: je prends ces deux fils, je te prends tes fils. Et il prend ces deux garçons et il les met au même niveau que leurs oncles, que les frères de... Donc ils deviennent des tribus à part entière. Et je ne sais pas si c'est pour ça, je présume, parce que c'est quand même étonnant que ce soit justement ces deux fils-là qui sont la référence avec laquelle on bénit nos enfants, que Ephraïm ou Menaché. On ne dit pas que Issachar ou Zvouloun. D'accord? C'est pas qu'on a. Ils sont très bien tous les autres. Mais c'est quand même eux qu'on utilise systématiquement comme pour les brachot. Mais on comprend bien, c'est eux qui sont vraiment la quintessence, si vous voulez, de Yaakov et de ses femmes, quoi. Voilà, on s'arrête là.